Hey, how you doing?
Bienvenue au bureau des légendes.
Somebody royally forked up.
Un épisode et j'arrête.
Dracarys.
Une émission présentée par l'ACS.
C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Déviré.
L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio.
These violent delights have violent ends.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries. Cette semaine, on s'échauffe un peu parce qu'il va falloir courir très vite et garder son sang-froid. Puisqu'on parle de Slow Horses, dont la quatrième saison est en cours de diffusion sur Apple TV+, un thriller policier britannique haletant, voire extrêmement tendax, et tout simplement une des séries les plus enthousiasmantes de ces dernières années, en tout cas c'est ce que moi je pense. Moi je suis Anaïs Bordage, journaliste indépendante et co-créatrice du podcast Ami, et avec moi pour parler de Slow Horses se trouve Nora Boisoni, journaliste et autrice indépendante.
Hello.
Et Constance Jamet, journaliste au Figaro, salut à vous deux. Et cette semaine, c'est Nora qui a prévu une petite carte blanche qui viendra en fin d'épisode. Nora, de quoi nous parleras-tu ?
D'une petite série méconnue que tu détestes et qui s'appelle Mad Men.
Ouais.
Ouais, et ben te réjouis pas trop vite, Anaïs Bordage.
Ah non. Okay.
Tu vas me détester, moi.
Eh bien, très bien, je me prépare, je m'échauffe encore plus. Mais avant ça, on va parler de Slow Horses. On va commencer par le pitch pour les personnes très chanceuses qui n'auraient pas encore découvert Slow Horses. Slow Horses, c'est le surnom d'un département du MI5 où l'on envoie tous les losers placardisés, en fait. Et c'est là que, dans le tout premier épisode de la saison 1, se retrouve River Cartwright, un jeune espion ambitieux qui fait une grosse boulette et qui est donc envoyé à Slow Horses pour être placardisé et qui est joué par Jack Lowden, qui est peut-être l'être humain le plus beau jamais créé.
Il est très très cute.
Voilà, je tenais à le dire. Et à Slow Horses, c'est pas vraiment comme ça que ça s'appelle, c'est Slough House, il va devoir bosser avec Jackson Lamb, incarné par le grand et le flatulent Gary Oldman, qui est très très en forme dans cette série, qui joue une espèce de masse de cheveux gras.
Dégoûtant. Dégueu.
Qui fait quand même des très bonnes blagues, mais vraiment, il me donne envie de prendre des douches à chaque fois que je le vois.
Mais on sent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une série en odorama, en fait, parce que...
Exactement.
Et d'ailleurs, la saison, je pense que j'ai l'impression que chaque saison, la première fois qu'on le voit, il y a un plan sur ses chaussettes trouées.
Oui,
en tout cas,
vrai.
Sur la saison 4, je crois que le premier plan où on le voit, c'est ses chaussettes trouées. Et il est dégueu, il a les cheveux gras, tu sens qu'il doit puer le tabac froid, le whisky.
Ah,
là,
ouais.
Il se douche pas. D'ailleurs, c'est des blagues récurrentes des personnages qui le rencontrent, qui lui disent « Mais tu vas pas prendre une douche, en fait ?» quoi. Donc,
il est
puant
dégueutant.
Dans les deux sens du terme, hein, parce qu'il est quand même odieux, lui, au prud'homme, il fait pas long feu, quoi.
Non, il est absolument atroce, mais c'est son nom que porte la série de livres dont est inspirée la série, Jackson Lamb. Est-ce que l'une d'entre vous, d'ailleurs, a lu les livres dont est inspirée la série ? Constance, tu les as pas lus ?
Non.
Moi non plus, j'avoue. J'ai pas lu les bouquins de l'auteur Mick Herron, donc britannique, qui écrit ces bouquins qui sont en France chez Actes Sud en VF, et il est vivant, hein, parce que parfois on se dit c'est des écrivains morts dont on voit le
Merci
travail adapté.
Merci pour ce rappel.
Je précise que Mick Herron est vivant et que son dernier bouquin, le quatrième, dont est adapté la série, est sorti cet automne. Et en fait, je les ai pas lus parce que c'est pas ma cam à la base, l'espionnage.
Eh ben moi non plus.
Ouais, tu vois, c'est ça qui est intéressant, on va en parler, mais justement, je ne lis pas de thriller, je ne lis pas vraiment de polar, à part si on m'en a vraiment beaucoup, beaucoup parlé en me disant « Nora, c'est sûr, celui-là, tu vas adorer, et encore. » Alors l'espionnage, c'est pas ma cam, quoi. J'ai bien aimé quelques films adaptés de John le Carré, un peu comme tout le monde, Tinker Soldier, machin, Tinker Tailor Soldier Spy, je sais plus.
Ouais. La taupe,
voilà, donc j'ai pas... C'est plus facile en français. Donc non, c'est pas du tout des livres qui m'ont attiré.
Mais alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans Slow Horses ?
Alors,
à part Jack Lowden.
J'allais dire, non, mais en fait, je ne me souviens pas ce qui m'a poussé à regarder cette série plutôt qu'une autre, dans le sens où nous, journalistes, on a accès aux screeners, donc aux épisodes en amont de la diffusion. On en reçoit beaucoup, on doit faire des choix. On a la chance de pouvoir les voir, mais c'est notre métier, hein, donc voilà. Et quand j'ai vu le pitch de la série, je me suis pas dit « Ah, waouh, je me jette dessus », parce que justement, je me suis dit « Bon, c'est pas ma cam ». En même temps, il y a Gary Oldman.
Oui.
Série britannique, Gary Oldman, déjà, ça coche deux belles cases pour me donner envie. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, allez, on va donner cette chance. Parce que j'avais pas lu, il me semble que j'avais pas lu de critiques des Américains ou des Britanniques qui encensaient la série. Personne m'en avait parlé, je crois. Et je pense que je l'ai lancé un peu au hasard. Après, peut-être que je réécris l'histoire et que j'ai dû voir passer un tweet à 2h du mat d'une critique américaine disant...
Moi, je pense que c'était moi. J'ai dû faire une story Insta
toi.
Et tu t'es dit, ok,
c'était toi,
je dois écouter Anaïs.
Anaïs comme succession, voilà, elle me fait aimer
Exactement,
des
j'adore et être précurseur.
Bah, du coup, je sais plus, mais j'ai accroché au bout de 3 minutes, parce qu'il faut dire quand même que la scène d'ouverture du pilote de la série, j'en ai des frissons, elle est... hallucinant, tu parlais de Tandax, alors là on est sur, on retient sa respiration quoi. Et du coup Constance, je sais pas si toi tu l'as regardé en non, mode moi, professionnel pour le boulot, tu t'es dit
oui,
allez on
ouais,
va essayer.
Complètement, j'ai découvert que j'avais des screeners avec Gary Oldman dedans, je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Alors moi contrairement à Nora, j'aime bien l'espionnage, donc au départ d'ailleurs il l'avait plus vendu comme une comédie que comme une série d'espionnage, et moi je suis plutôt rentrée par le biais, on va bien rigoler et on va un peu pasticher les thrillers habituels. Il faut aussi dire que c'était venu après Killing Eve, qui avait déjà un peu montré qu'on pouvait rire avec ce genre-là et être dans l'humour noir. Et je pense que comme j'avais bien aimé la première série, je me suis dit « allons-y, les yeux fermés ». Mais je n'avais pas du tout lu les ouvrages de Mike Aron, qui est très prolifique parce qu'il a écrit une douzaine de bouquins. Tous ne sont pas traduits en France, mais il en écrit un par an, donc la série peut continuer longtemps.
Moi, je dois dire que c'est vraiment l'écriture qui m'a accrochée immédiatement. Je trouve que c'est très drôle et c'est vrai que pour moi, c'est l'argument de vente principal. En tout cas, quand je pitch la série à d'autres personnes, je dis mais tu vas rire. C'est pas que un thriller, c'est extrêmement haletant et anxiogène à plein de moments, mais c'est contrebalancé par un excellent humour. Et par des réparties. En fait, il y a un art de la répartie dans cette série que je trouve qu'on a un petit peu perdu dans beaucoup de séries actuelles. Et moi, ça a toujours été une des choses que je préférais dans les séries, que ce soit Buffy, Gilmore Girls. J'aime bien les one-liners. J'aime bien quand ça pète. Ce n'est pas comme ça que les gens parlent dans la vraie vie. Je m'en fiche. J'adore les sorkinismes. J'aime quand les gens trouvent la meilleure manière d'envoyer chier quelqu'un ou la meilleure manière de dire quelque chose ou de faire une bonne blague. Et je trouve que cette série, elle a ça. Est-ce que vous avez l'impression que ce genre de séries se font de plus en plus rares et qu'on est limite face à une série comme on n'en fait plus?
Ouais, il y a un côté old school pour plein de raisons. D'abord, ce que tu dis sur les one-liners, sur les répliques assassines, moi, ça m'a beaucoup rappelé VIP, qui est quand même un exemple du genre de one-liners, de répliques qui font mouche, qui sont très dures à traduire en français. Et pareil dans Succession, c'est quand même la même chose. Hein. On a des personnes qui font un travail d'adaptation qui est incroyable en français pour essayer de traduire même juste, je pense, 10% de ce qui est dit. Ça va très très vite, c'est ultra référencé. Et puis là, en plus, c'est britannique. Donc, il y a aussi des insultes auxquelles on n'est pas habitués. Nous qui voyons plus de séries américaines que britanniques. Donc, rien que ça. Et c'est vrai que c'est comme ça que je vends la série. Je leur dis, si vous avez, même si vous n'avez pas l'espionnage, c'est pas grave, vous allez rire. Et les gens connaissent Gary Oldman. Je leur dis, il y a aussi Christine Scott Thomas qui est là et qui est quand même très chouette en méchante boss du service de renseignement. Et effectivement, la comédie. Et une des raisons qui font qu'on peut se dire que c'est une série un peu old school, c'est ça, c'est on essaie de mélanger des genres qui, en fait, comme le dit Constance, depuis Killing Eve, on s'est dit que c'était possible.
Ça pourrait être la comédie de bureau, d'ailleurs.
Et, oui. Et bah, je l'ai dit ça à quelqu'un l'autre jour. Je lui ai dit, en fait, tu imagines The Office, mais avec des espions, en moins grotesque, en moins burlesque, avec de l'action, mais c'est ça. C'est un mélange de...
Il y a un peu plus de bord, mais à part ça,
c'est ça. C'est un mélange de VIP, de The Office, avec de la taupe de John le Carré. Et, en fait, j'ai l'impression que l'écriture... ne cherche pas à imiter et ne cherche pas à se forcer pour nous donner envie d'en voir plus. Moi, c'est Slow Horses, c'est la seule série depuis des années que j'ai vue en une nuit à chaque fois.
Pareil.
J'ai vu chaque saison. C'est impossible, je trouve, de s'arrêter après un épisode. J'ai passé la nuit à regarder avec plaisir. Je me suis dit, je peux pas aller me coucher maintenant. C'est pas possible. Et ces cliffhangers-là, à la fin de chaque épisode, ils ont l'air tellement naturels. Ils arrivent comme ça. Tu ne t'y attends pas et c'est une série qui me surprend.
Et ça, c'est vraiment des codes à l'ancienne, mais effectivement, comme tu le dis, qui ne sont pas forcés dans Slow Horses. Et d'ailleurs, on parle de l'écriture humoristique et des one-liners, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi l'action qui est extrêmement bien écrite. On arrive toujours avec des 2-3 derniers épisodes qui sont hyper tendus et où on se dit comment ils vont s'en sortir. Et ça, c'est la meilleure écriture de série.
Il y a toujours un peu de la course contre la montre.
Exactement, c'est ça. Ce qu'on appréciait dans 24 ou dans Breaking Bad, d'ailleurs, et que là, on retrouve totalement. Toi aussi, Constance, tu dirais que c'est une série un peu old school ou en tout cas qui se démarque de la tendance actuelle des séries?
Enfin, moi, je dirais qu'en général, les films et les séries sont de moins en moins dialogués, puisqu'apparemment, il faut faire, pour garder l'attention du spectateur, il faut aller vite. Donc, le plus simple, c'est de faire beaucoup d'action et de faire le moindre dialogue possible. Et c'est dit, je trouve que les Anglais ont une manière de d'écrire et d'espacer le rythme de leur série qui est quand même très propre à eux. Je ne sais pas si c'est Shakespeare, si c'est l'éducation classique des scénaristes, mais je trouve que dans cette série, il y a à la fois, elle est très dialoguée parce qu'il faut, pour que ce soit drôle, il faut qu'il y ait beaucoup de dialogue, et en même temps, les gens prennent le temps de se parler, ce qu'on fait de moins en moins, je trouve, dans les séries. Et surtout, ce qui est savoureux particulièrement, c'est qu'on sait qu'il y a des personnages qui vont avoir les dialogues les plus juteux, comme Jackson Lamb et Diana Tavernier, qui est sa rivale, son ennemi, son ancienne consoeur à la tête des renseignements. Et on sait que quand ces deux-là sont dans la même pièce, on est parti pour une très belle volée de ping-pong.
Ouais, c'est
ça que j'aime aussi, c'est les antagonismes de ces deux maisons. Donc il y a les premiers de la classe en gros qui sont dans le bâtiment officiel du MI5 et il y a des gens qui sont placardisés, donc les fameux Slow Horses dans la Slough House, et cet antagonisme entre les deux. Et peut-être, oui, effectivement, qu'il y a ce côté théâtral, comme tu dis, Constance, qui joue beaucoup, qu'on a beaucoup moins. Qu'on trouve dans les séries israéliennes aussi, hein, qui sont des séries quand même qui sont très bavardes, où on prend le temps d'installer ça. Et je crois qu'il y a un truc qui me plaît beaucoup dans Slow Horses, c'est... Et là, pour le coup, c'est assez moderne, je trouve, en tout cas moderne. Disons que c'est dans des séries contemporaines, qui sont plutôt des blockbusters. Mais cette série, qui n'en est pas un, applique cette règle, qui est, dont on se rend compte au bout de 3 saisons. Et à la 4e, on se dit, ok, c'est... ne t'attache à aucun personnage.
Ouais.
Et on va pas spoiler les gens qui l'ont pas vu, mais ne vous attachez pas aux personnages. Il y a des gens qui vont mourir. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça, moi, ça m'a brisé le cœur. Il y a une mort en particulier qui m'a atomisée. J'étais en larmes devant ma télé et les personnages sont très bien écrits. Le casting, on en parlera après, je crois, mais il est parfait. On laisse le temps aux personnages d'exister. J'en parlais avec une autrice qui s'appelle Alice Zeniter, qui vient de sortir Frapper l'épopée, qui a eu un concours des lycéens avec L'Art de perdre. On parlait de cette série, et elle m'a dit un truc qui m'avait pas du tout frappé. Elle m'a dit ce que je lui avais conseillé, Slow Horses, elle a regardé, elle a adoré, et elle m'a dit, ce qui me frappe, c'est les vêtements. C'est-à-dire que c'est des gens qui portent les mêmes fringues, en fait, presque tous les jours, comme n'importe qui porte les mêmes fringues, et elle dit, en fait, les vêtements ont l'air méga réalistes. Ouais. Et je crois qu'il y a cette justesse d'un côté très réaliste de cette série qui m'a beaucoup touchée.
Ben, je suis complètement d'accord avec toi et en même temps, il y a aussi un côté assez doudou dans le fait que c'est très formulaïque et donc un petit peu factice. C'est-à-dire que à la fois, oui, dans les codes visuels, c'est une série qui est très moderne, qui est hyper léchée déjà visuellement, qui a des chorégraphies, des scènes d'action qui sont mises en scène avec brio, même si voilà, c'est fonctionnel, mais ça fonctionne hyper bien, c'est très efficace. On croit totalement à cet univers, on sent l'odeur de pied de Gary Oldman, mais à côté de ça, malgré des enjeux qui sont souvent des enjeux de vie ou de mort, on sait que la saison prochaine, ça va recommencer, que c'est une série de bouquins. Il y a un côté un petit peu Sherlock Holmes qui fait que ça donne envie de se la mater sous un plaid avec une petite tasse de thé, un peu comme si on matait Gilmore Girls en fait, alors qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même ce côté très doudou et très factice, lié au fait que là aussi on est sur une série qui pourrait durer pendant des années et des années, ce qui existe aussi de moins en moins, et que donc ouais, il y a un petit côté c'est hyper grave mais ça se produit pas vraiment, et ces morts elles sont très tristes, mais en même temps je suis totalement conscient que je suis en train de regarder un divertissement, un très bon divertissement. Je sais pas ce que t'en penses, Constance.
Moi, je quand même trouve, enfin, il y a des morts, certes, mais c'est jamais le trio ou le quatuor principal. Pour l'instant, c'est jamais Gary Oldman, c'est jamais sa rivale, et c'est jamais le chouchou caché de Jackson Lamb, qui est River, quoi. On sait quoi, même si River met toujours les pieds dans le plat, et à cause de son zèle, dans des situations impossibles, in extremis, il s'en sort toujours bien, quoi. C'est le chouchou de la classe, inavouable.
Ils ont quand même réussi un très bon coup à un certain moment, justement, pour nous faire croire que River, potentiellement, n'allait plus être là.
J'y ai cru, j'étais très surprise.
Moi aussi. Et franchement, je me suis dit, c'est méga punk. Et aussi, je me suis dit, je regarderai plus. Parce que franchement,
ben,
je l'aime trop.
Ouais. J'y ai cru peut-être 5 secondes. Et après, j'ai fait, non, c'est pas possible, en fait. Mais je me suis dit, s'ils font ça, c'est énorme. Il y a un côté Game of Thrones. C'est vraiment, on va buter des personnages et c'est tout, quoi. Et vous allez quand même regarder parce que ce qui vous intéresse, c'est pas que ça.
Mais c'est très fort qu'on y ait cru toutes les trois, quand même.
Ouais.
Moi, au moment, j'ai pensé qu'on aurait, pour un moment, je me suis dit, c'est fou, ils ont pas osé. Je me suis dit, c'est sûr, on aura la réponse à la fin. Et en fait, on a la réponse pas au bout du sixième épisode, mais au bout du premier, ce que je trouve à la fois très tendancieux et très sympa.
Bah, en fait, moi, j'aurais bien aimé qu'ils tirent le fil jusqu'au bout. Mais là, tu sens peut-être aussi l'influence de la chaîne qui dit, non, mais les gars, en fait, il faut quand même assez vite rassurer le spectateur. Mais j'ai trouvé ça un petit peu punk qu'ils aillent au moins jusque-là dans l'intrigue.
Mais ça m'intéresse ce que tu dis sur le côté doudou et le côté, cette série pourrait durer et durer et durer. C'est le constat que tu poses. On a de moins en moins de séries qui durent. On en a parlé bon nombre de fois dans ce podcast, justement, sur le fait de ne plus pouvoir s'attacher, de ne plus avoir le cœur brisé réellement quand une série s'arrête, parce qu'on n'a pas eu le temps, en fait, d'éprouver des sentiments d'attachement, de tendresse, d'affection, de haine, d'amour, etc., d'être un peu ambivalente. C'est des séries qui vont rester parfois très manichéennes. Et justement, nous, en tant que spectateurs, spectatrices, on se dit, je ne vais pas m'attacher, parce que ça se trouve, dans une saison, c'est annulé, ou bien à la fin, c'est annulé. Et là, c'est quand même la quatrième saison. Alors, il faut aussi dire qu'il y a eu les deux premières qui ont été diffusées vraiment l'une juste après l'autre. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on en est à la quatrième. Il y a eu la grève entre-temps, mais les deux premières saisons ont quand même été diffusées vraiment très rapidement. C'est une série relativement courte. On n'est pas sur une série en 10 épisodes. Et puis, elle se regarde vraiment en un claquement de doigts. Donc, je pense qu'en fait, on est déjà accrochés. Si on arrivait, à la deuxième saison, j'étais complètement... Je m'étais entichée complètement de cette série et je vivais avec les personnages. Et je crois que ce réalisme et cette vie de bureau, comme le disait Constance, elle nous donne envie de continuer la série et il se forme un attachement très très fort, je trouve, à cette œuvre.
Moi, ce que je trouve très bien aussi, c'est que c'est assez rare pour le dire, c'est que c'est une série qui n'attend pas 2 ans pour enquiller les 6 épisodes qui suivent. Il y a une régularité du rendez-vous qui est appréciable et... Aussi, il y a quelque chose d'assez redondant dans la série, mais c'est aussi la redondance de ces pauvres pieds nickelés de l'espionnage. Ils sont dans une vie de bureau qui est un peu... Alors, il y a quelques missions qui viennent la perturber, mais on sent quand même que c'est des gens qui s'ennuient, qui font les mêmes tâches. Et il y a ce côté un peu attachement qui rentre par là également. Ils sont un peu comme nous au bureau. Parfois, ils font des tâches dont ils n'ont pas envie. Parfois, c'est répétitif. Et c'est vraiment pas le glamour à la James Bond. C'est peut-être... C'est ce que disaient beaucoup les créateurs. Ils disaient, dans vos services de renseignement, il y a quand même beaucoup de gens qui font de l'administratif aussi, ils vont pas sauver le monde tout le temps, quoi.
Et puis le côté temps réel, je m'en suis rendu compte vraiment dans la saison 4, en fait, où en fait, entre chaque saison, il se passe pas 1 an et demi, justement, que ce soit pour nous qui la regardons, pour les personnages qui vivent justement cette vie de bureau un peu boring, mais une saison se passe dans un temps quand même relativement court, c'est, ouais. Parfois c'est 2-3 jours, quoi. Donc ça joue aussi sur la tension de la série, sur l'attention que nous on a en la regardant, et sur le fait de vraiment vivre avec ces gens, parce que même si on attend 6 mois ou 1 an avant d'avoir la suite, ben en fait ça se passe juste après, donc on a l'impression vraiment d'avoir juste mis pause. Et il y a une... en fait je trouve qu'il y a peut-être une forme de télé-réalité avec ce côté The Office de l'espionnage, et qui va être suspendu par les moments d'action qui sont de la pure action, donc les gens qui aiment l'action, vous allez adorer cette série, parce que c'est vraiment une vraie série d'espionnage. Hein. C'est
River court comme Ethan Hunt dans Mission Impossible.
On adore quand il court. Ah
ouais. Parfois, il ne prend pas le bon cheval parce que s'enfuir à Solex, comme dans cette saison, c'est pas
du tout. Ça, c'est la France, quoi. Vous allez voir, cette saison se passe pas mal en France et il y a des scènes assez cocasses.
La compagnie française la plus triste et la plus
grise.
Voilà. Oh là là, dans une ville qui s'appelle Lavande.
Lavande, dans, je ne sais même plus où c'est, vers la Champagne, je ne sais plus.
En Ile-de-France, ça a l'air d'être la lisière de l'Île-de-France.
Ouais, alors ça s'appelle Lavande.
Il y va en Tête-Smith.
Ah oui, c'est vrai, c'est dans l'Eure ou un truc comme ça, donc ouais. Ça pourrait tout à fait être vers la Normandie, et puis en fait, ça s'appelle Lavande. Enfin, c'est complètement.
En tout cas, il s'est fait une belle course de taxi pour y aller.
J'ai regardé le prix, c'est pas du tout ça qu'on devrait payer. Non, mais je vous jure, je fais ça. Absurde. Il prend le taxi, donc il arrive à l'aéroport, à Paris, et il prend le taxi, et donc on voit dans l'épisode 2, je crois, on voit à la fin combien le taxi affiche au compteur, et j'ai vérifié. Je crois qu'il y en a pour 80€, et en vrai, je pense qu'il tournera pour 230. Enfin,
c'est ça. Non, c'est ça. Moi, je me suis dit, c'est une course très chère.
Rien, c'est qu'il y a pris un vol Ryanair.
Attention, le fact-checking de Slow Horses par les Français. Non, mais c'est, ce qu'il faut préciser, c'est que dans cette quatrième saison qui est en cours de diffusion sur Apple TV+, il y a Hugo Weaving parmi d'autres personnes. Le casting est quand même assez impressionnant. Tu as parlé de Gary Oldman et de Kristin Scott Thomas, c'est déjà pas mal. Mais on a aussi plein d'autres acteurs connus qui viennent faire des petites visites. Est-ce que vous ne pensez pas que le casting joue énormément dans l'attrait de cette série? Moi, je sais que tous les gens qui s'y sont mis, c'est parce qu'il y avait Gary Oldman dedans. Et là, on a quand même...
Oui, Jonathan Pryce, ouais.
Ah oui, Jonathan Pryce, évidemment, qui joue le grand-père de River. Pour moi, c'est quand même un gros argument de vente quand j'en parle, parce que c'est des pointures.
C'est un argument de vente. Après, c'est vrai que moi, j'apprécie les séries qui prennent un risque international, donc parce que là, on est sur une série sur Apple TV+, tu l'as dit, avec un casting que moi, je ne connaissais pas, à part justement ces noms-là. Jack, je l'avais déjà vu, mais je ne me souvenais absolument pas de lui, alors que comment oublier ce petit visage. Les autres, ses collègues de bureau... inconnu au bataillon, à part à un moment, on a, et j'ai oublié son nom, qui joue dans House of the Dragon.
Olivia Cook.
Olivia Cook, merci beaucoup Constance. Olivia
qui
Cook.
Fait pas
long feu,
d'ailleurs.
Voilà, ne vous attachez pas non plus beaucoup à elle. Là, on spoil. Non, mais en tout cas, c'est quand même relativement des inconnus au bataillon. En tout cas, nous, pour nous, Français, je pense qu'en Grande-Bretagne, on le sait très bien. Dans toutes les séries britanniques, on reconnaît des gens, notamment, ils ont tous fait Game of Thrones à un moment, et oui. On les reconnaît beaucoup comme ça. Jonathan Pryce, hein, pour le coup. Et il y a aussi, d'ailleurs, dans la saison 4, j'ai mis du temps à le reconnaître, mais c'est un des personnages principaux, un des nouveaux personnages de la série, qui prend la tête du service de renseignement, c'est
Gaius Baltar.
Gaius Baltar de Battlestar Galactica. J'ai mis un temps fou à le reconnaître avec ses cheveux, puisque dans Battlestar, il n'avait pas du tout la même coiffure. Et il est exceptionnel, je trouve, et toujours sur le fil entre le ridicule, le mec qui essaie de bien faire, l'incompétence, enfin...
Ouais, le mec détestable. Enfin, moi, en fait, c'est pathétique, pareil. Je me disais, mais... j'ai déjà détesté ce mec dans une autre série, mais je sais plus dans quelle série je l'ai détesté. Et je voulais pas googler, je voulais vraiment essayer d'entraîner un petit peu mon cerveau. Et j'ai fini par me souvenir que c'était Gaius Baltar, mais oui, il est toujours aussi détestable.
Horrible. Et c'est vrai que ce mélange de Kristin Scott Thomas, Gary Oldman, Hugo Weaving en guest, de très peu de personnes connues, très connues, et quelques personnes qui tiennent un peu justement, qui sont bankable, il faut bien que la série se vende sur les affiches, il faut bien qu'on ait des têtes connues. C'est ça qui est chouette, ils auraient pu faire une série avec que les têtes d'affiches, je pense que ça m'aurait beaucoup moins intéressé et j'aurais trouvé ça beaucoup moins réaliste.
Et d'ailleurs, on a vraiment de très bons talents comiques dans toute l'équipe de Slow Horses. Je voulais vous demander quel était votre personnage préféré en dehors des personnages principaux, parce qu'on a quand même une belle brochette. Moi, j'avoue que j'ai oublié son nom, c'est pas Roddy, non, le geek horrible.
Même que toi.
Le hacker.
Ouais, qui est sur son ordi tout le temps. Il s'appelle Roddy.
Ouais, bah lui, j'avoue que bon, ça a l'air d'être un sociopathe. Il est extrêmement...
misogyne.
Ouais, misogyne et désagréable avec tous ses confrères et toutes ses consoeurs. Mais qu'est-ce que je l'aime, il est très marrant.
C'est lui qui a quand même des répliques fabuleuses. En fait, c'est le comic relief du bureau, parce que finalement les autres gens sont pas drôles. En fait, il faut quand même rappeler qu'ils sont tous et toutes là parce qu'ils ont merdé, mais qu'ils ne savent pas pourquoi leur collègue est là. Donc c'est aussi le but de découvrir pourquoi toi t'as été foutu au placard. Et c'est des gens qui ont beaucoup de traumas. Il y a des gens qui ont été toxicomanes, il y a un personnage qui est accro au jeu de hasard, au jeu d'argent. Ils ont tous des traumas familiaux. Enfin, c'est quand même une série qui reste très dark hein, sur la personnalité des personnages. Mais c'est ça aussi qui est drôle, parce qu'ils s'en foutent plein la gueule dès qu'ils savent ce qui est arrivé à l'autre. Ils se servent des traumas des autres pour justement nous faire rire. Et il y a un peu la course, en fait. Le but, c'est de sortir de ces endroits horribles. C'est une espèce d'antichambre de l'enfer, si ce n'est l'enfer, en fait, cette Slough House. Donc, ils se servent de ça. Et cet ingénieur informaticien qui est incroyable, qui est une espèce de génie, hein, qui peut hacker des trucs. Enfin, c'est vraiment son rôle est absolument crucial dans cette équipe.
Et qui a un compas moral défectueux.
Qui est, comme tu dis, je pense qu'il a un côté psychopathe, il est extrêmement misogyne, il fait des remarques complètement déplacées. Enfin, lui, pareil, harcèlement, de toute façon tous, hein, harcèlement au bureau, là on a un truc gagnant. Et lui, en fait, c'est un peu le bouc émissaire, mais parce qu'il le veut bien. C'est le souffre-douleur du bureau, parce qu'en fait il est odieux, donc tout le monde passe ses nerfs sur lui parce qu'il est abominable et qu'il le mérite en quelque sorte. Mais même lui, il y a des moments où on a un peu d'empathie, et je trouve que le fait de nous faire ressentir de l'empathie pour tous ces personnages, même ceux qui, comme tu dis, moralement sont très problématiques, ou un peu ou dégueulasses entre eux, parce qu'en fait il n'y a pas de manichéisme dans cette série, c'est ça que j'aime.
C'est vrai.
J'aime beaucoup le personnage de la secrétaire qui est jouée par, qui est plus que ça, qui est jouée par Sage Cariff, qui était un peu le centre de la saison 3.
C'est vrai.
Qui est en dessous de Jackson Lamb et dont on, qui est la plus compétente de tout le service, c'est celle qui y met vraiment le plus de cœur et qui a un gros problème d'alcoolisme. Et j'ai trouvé que la manière de gérer le personnage, à un moment elle est kidnappée puis elle revient, était très bien menée.
Elle est tellement maligne, celle-là. Ce personnage est tellement pleine de ressources et personne ne la soupçonne parce qu'elle a ce look un peu vieillot, un peu ringard, et personne juste, et elle en joue. On voit dans plusieurs saisons qu'elle en joue à fond et qu'elle a l'air de pas y toucher, mais elle est incroyable. C'est vrai, t'as raison, ce personnage est fantastique.
Oui, et en fait, elle cristallise tout ce qui fait l'attrait du concept de la série, c'est-à-dire qu'on a tous les losers et en fait, c'est eux qui vont finalement être les meilleurs et qui vont permettre de sauver la situation à chaque fois. Mais ils payent pas de mine, on les sous-estime en permanence, on se moque d'eux en permanence, leurs collègues du MI5 se foutent de leur gueule tout le temps. Et en fait, malgré ça, c'est eux les héros de la série. Et ça, c'est un concept qui marche toujours dans la pop culture. Hein, les losers, les underdogs, les outsiders. Et elle, c'est vrai qu'elle représente le plus ça. Personne ne la soupçonne. Et en fait, le bureau ne tient pas vraiment sans elle. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 4 ?
Moi, ce qui m'a intéressée dans cette saison 4, c'était déjà un peu le cas dans la saison précédente, c'est que plus on avance, plus tout devient personnel. La saison 3, c'était la disparition de cette personnage qui s'appelait Catherine. Et la saison 4, c'est l'exploration du passé de River qui est un peu étrange. On se demande pourquoi il n'a pas de parents, pourquoi il est élevé par son grand-père. Et cette saison donne beaucoup de réponses, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Et je trouve que c'est intéressant qu'au fur et à mesure, la série pose une loupe sur chacun de ces personnages et essaye d'explorer leur passé, ce qu'elle a mis beaucoup de temps à faire.
Est-ce que tu avais envie d'avoir toutes tes réponses, toi, Nora ? Moi, perso, j'en avais pas forcément besoin.
En fait, j'ai trouvé que c'était... Alors moi, j'ai adoré la saison 4, moins que les saisons précédentes, mais je l'ai quand même beaucoup aimée. Elle m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. La chanson de fin, je ne dirai pas ce que c'est, parce que faut regarder jusqu'au bout.
No spoiler.
Ouais, no spoiler, même sur les musiques, parce que c'est important, la musique. Hein. Il y a des gens dont c'est le travail et qui le font très bien. J'ai trouvé que ce dont parle Constance, cette exploration du passé de River et les révélations, parce qu'il y a des révélations sur des éléments de sa vie, de sa biographie, disons-le comme ça sans spoiler, j'ai trouvé que c'était quand même très grosse ficelle.
Ouais, je trouve aussi.
En fait, je trouve qu'on voit le truc arriver, parce que c'est 6 épisodes, si je ne m'abuse, les saisons. Oui. Et je crois, et donc c'est très court, hein, finalement. Et je crois que, donc on n'a pas beaucoup le temps, hein, si on pose des questions, il faut y répondre très vite. Et donc je crois qu'à l'épisode 3, je m'étais déjà dit, bon, je crois que j'ai compris. Je crois que je sais où on va en venir.
On comprend un moment très vite parce qu'il y a un morceau de dessin qui t'aide à comprendre qu'il y a certaines choses qui se relient entre elles. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'était une réflexion sur l'hérédité ou pas de la compétence, et ça m'a fait beaucoup rire.
Oui, sur l'atavisme familial, mais c'est aussi ce que d'autres personnages un peu en filigrane évoquent, tu vois, quand on évoque les traumatismes, les addictions, etc. Beaucoup de gens évoquent leur passé, leurs parents, tu vois que c'est des gens qui, en fait, ont très peu d'attaches, c'est des gens qui sont quasiment tous et toutes célibataires. Des gens, leur famille, on n'entend pas parler d'eux. Donc, c'est des gens qui sont très isolés, très pas individualistes, mais très, qui le sont devenus par la force des choses et peut-être très solitaires. Et donc, cette Slough House, c'est une sorte de famille recomposée, pas choisie non plus, mais il faut bien faire avec. Et donc, je crois que, comme tu disais, Constance, les questions personnelles sont forcément au milieu de la série, parce que interaction entre collègues, parce que gens traumatisés, parce que gens qui vont pas bien, parce que gens tout seuls et qui passent du temps avec ces personnes-là et c'est tout. Et sur les révélations, ouais, trop gros sabots. Là, j'ai vraiment vu ce que tu disais tout à l'heure, Anaïs, le côté scolaire, quand même très formulaïque, très classique de cette série. Là, je l'ai trouvé sur l'écriture de cette saison. J'ai trouvé ça un peu trop, justement, film d'action, avec un peu moins de réflexion et un peu moins de finesse et de subtilité que les précédentes.
Bah, c'est ce qui m'amène à ma question suivante. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça s'épuise au bout d'un moment ? Parce que moi, j'ai eu l'impression, en voyant cette saison 4, qu'on atteignait un petit peu les limites de ce que la série pouvait faire. Ou en tout cas, qu'en essayant d'aller creuser autant le personnage de River, qu'elle nous éloigne un petit peu de ce qui a fait le charme de la série au début, et peut-être qu'ils ont plus de cartouches, je sais pas, mais est-ce que vous avez pas peur qu'au bout d'un moment on s'en lasse ?
Bah, disons que maintenant qu'ils ont tout dit sur River, il va falloir trouver un autre point d'accroche, quoi. Donc, ce qu'il leur reste, c'est Jackson Lamb, éventuellement.
C'est vrai qu'il reste des mystères à débloquer sur lui.
Ouais, mais après, toute la question est de savoir quel est le but de Slow Horse. Est-ce que si c'est de mettre à la retraite tout son personnel, à un moment, il y aura forcément tous les anciens, comme dans Urgence, vont partir. Ou alors le service ferme. Mais d'un côté, on peut se dire, d'un point de vue cartésien, il y a 12 livres qui ont été écrits, donc il y a de la matière. Mais là, je suis curieuse de savoir où ils vont aller maintenant, parce qu'ils nous ont fait les relents de la guerre froide, la disparition d'un personnage, l'hérédité d'un autre. Je suis curieuse de savoir quels espaces il reste encore pour changer de violon et changer un peu de mélodie.
Ouais, c'est ce qui me rassure aussi, c'est le fait qu'il y ait des livres. Mmh. Donc je me dis, il y a quand même encore beaucoup à faire. Alors après, j'ai pas lu les bouquins, donc je sais pas quel est le fond et où est-ce que ça va. Mais c'est vrai qu'il reste Jackson, mais il reste aussi le fil rouge qui relie Jackson à Catherine. Qu'on n'évoquera pas parce que sinon on va spoiler quand même beaucoup de gens, qui est pas tout à fait réglé. Et donc il y a ça. Je pense qu'il y a aussi Christine Scott Thomas. Il y a pas mal de choses.
Très en retrait. Donc on se demande bien ce qu'elle fait quand elle n'est pas dans son bureau.
Oui, c'est ça. Et donc je me dis, elle, il y a quelque chose à jouer aussi avec ce personnage. On sait qu'on n'ira pas chercher du côté intime des autres personnages plus secondaires, quoi. Je pense que ce sera vraiment cette brochette, ce trio, ou bien un quatuor peut-être, mais les autres... Alors que moi, en fait, je me dis, j'adorerais des spin-offs très courts, tu sais, genre une web-série. Genre, c'est des 5 minutes de web-série sur chaque personnage. Qu'est-ce qu'ils font? Un peu comme dans Severance, quand on les voit rentrer chez eux, quoi. Qu'est-ce qu'ils font une fois que leur innie devient le outie et tout, quoi.
Je crois qu'ils font pas grand-chose. De ce que j'ai compris de cette série, ils vont en pub et après ils vont se coucher.
Ils mangent des chips et ils boivent des bières.
C'est ouais, ça. Voilà, c'est ça.
La déprime du quotidien.
Non, après, c'est l'avantage des séries d'espionnage, c'est qu'il y a des gens qui meurent, ce qui veut dire qu'il faut les remplacer, ce qui veut dire qu'on peut quand même renouveler le matériau un peu scénaristique pendant quelques temps, parce qu'on peut avoir des nouveaux acteurs qui débarquent, qu'on a des nouveaux personnages à chaque saison, et que donc on peut avoir peut-être du mystère autour de ces personnages-là, des tensions, etc. Donc, c'est renouvelable. C'est sûr que c'est renouvelable pendant encore un certain temps. Mais là, ouais, moi, j'avoue que la partie biographie de River m'a un petit peu inquiétée. C'est vraiment pas ça qui m'intéresse le plus dans cette série. Donc, j'ai pas envie qu'ils aillent creuser trop de ce côté-là, en fait.
On a eu beaucoup de personnages.
Ce qui nous manque comme cas de figure, c'est encore tout simplement quelqu'un qui arrive à passer de Slough House au vrai MI5 ou MI6, quelqu'un qui réussirait à s'extirper par le haut.
C'est vrai que ça, ce serait génial. Constance, je propose que tu ailles écrire cette saison. Je pense que, franchement, j'achète direct. C'est l'heure de la carte blanche.
La carte blanche de l'ACS.
C'est la carte blanche de la semaine et c'est Nora qui s'y colle. Nora, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? J'ai cru comprendre que tu allais m'énerver.
Oui, bouge tes oreilles, sors du studio, Anaïs, parce que j'ai testé pour vous Mad Men. Oui, alors, j'ai du retard, je sais. Enfin, j'ai retenté. Non, mais j'ai retenté Mad Men. Pas pour vous, mais pour moi. Parce que j'étais complètement passée à côté quand c'est sorti en 2007, comme j'étais passée à côté des Sopranos, bouclés la même année, ou de Breaking Bad, sorti un an plus tard. Oui, je suis bien journaliste. Mais
c'est bon. Je suis pas sûre parce que je suis dans le même cas.
Ah, bah, tu vois, voilà, je ne suis pas seule. Merci, Constance. Alors, Breaking Bad, Sopranos, Mad Men, saurez-vous reconnaître des dénominateurs communs à toutes ces séries? Un indice, leurs héros sont des salopards. Oups, pardon, j'ai spoilé la réponse. Alors, depuis, j'ai quand même été convertie à Breaking Bad, que j'ai adoré malgré la monstruosité injustifiable de Walter White. J'ai vu Les Sopranos, j'ai péniblement terminé Les Sopranos, j'ai détesté, et oui, Les Sopranos, et c'est pas seulement la faute de cette raclure de Tony, mais alors Mad Men, j'ai toujours bloqué. Et vu que la série est dispo depuis le mois d'août sur Netflix, avant de résilier mon abonnement, j'ai voulu donner une nouvelle chance à celle qui figure dans tous les top 10 séries jamais publiées, et dans ton cœur, Anaïs aussi.
Oui.
Toujours aux côtés de méga surprise Breaking Bad, Les Sopranos et The Wire, une autre œuvre empreinte de douceur, d'espoir et remplie d'hommes bons, juste et jamais, non jamais, corrompus par le pouvoir. Petite parenthèse en passant, lorsqu'il s'agit d'hommes, on ne dit pas que ce sont des anti-héros, qu'ils sont des connards, on ne dit pas méchants, on dit difficile, comme le titre Difficult Men du bouquin de Brett Martin sorti en 2012 sur l'âge d'or des séries avec en vedette tous les personnages suscités. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Eh ben Mad Men, c'est toujours non. Alors, est-ce que c'est pas toi, c'est moi, ou est-ce que c'est vraiment toi? La question plutôt, c'est est-ce que en 2024, j'ai envie de m'engager pour 7 saison avec des pubards misogynes, racistes et homophobes qui s'enquillent des verres de whisky en jaugeant le cul de leur secrétaire ou en trompant leurs épouses dépressives et en faisant des blagues antisémites. Est-ce que j'ai envie de passer 92 épisodes à voir des femmes humiliées, agressées, manipulées, rabaissées? Contre toute attente, la réponse est non. Ne me regarde pas comme ça, Anaïs, tu es outrée.
Je suis prête à bondir.
Outrée, et je sais, oui, je sais, chers auditeuristes, que Mad Men ne se résume pas à ça. Mais avant de me cancel de l'ACS, hear me out, comme on dit. Peut-être que dans les années 2010, quand Obama et Hollande étaient présidents et que nous caressions l'espoir d'un avenir meilleur, peut-être qu'à cette époque-là, on pouvait regarder Mad Men avec une certaine distance, en se disant « Oh là là, c'était ça les années 60, bouh là là, on a fait du chemin depuis quand même !» Alors qu'aujourd'hui, entre le recul sur les droits à l'avortement, Trump, CNews, le RN, le nouveau gouvernement Macron, l'ancien gouvernement Macron, l'affaire Pellicot, eh ben, la distance, elle a pas mal rétréci dans le rétro. Alors, tant que les raclures seront au pouvoir, tant que les salopards feront les lois, manipuleront l'opinion publique et continueront de traiter les femmes comme des corps à disposition, eh ben, désolé, Mad Men et moi, ça marchera pas. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est le patriarcat.
Tu me brises le cœur. Je tiens quand même à dire qu'au moins, on peut voir ces raclures se faire trancher le pied par une tondeuse de temps en temps dans Mad Men. Et que ça, franchement, ça vaut le coup. Mais bravo pour cette belle argumentation.
Je te remercie.
Je vois ton point de vue.
Tu ne me cancelles pas ?
Ben non, pas du tout.
Je te remercie.
Chacun ses goûts. Hein.
Même quand ils ne sont pas bons, d'accord ?
C'est la fin de ce numéro d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série. Merci à Nora et Constance d'être venues papoter de Slow Horses et d'avoir dit du mal de Mad Men. Nous, on se retrouve très bientôt et d'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, ça nous ferait très 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 plaisir. Salut!
Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.